Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les révoltés de l'Amistad, l'ouvrage de Marcus Rediker, vient de paraître aux éditions du Seuil. Il raconte l'histoire de ces esclaves africains qui se sont révoltés et mutinés. Franck Ferrand revient cet après-midi sur ce passionnant épisode de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Qui de plus indiqué qu'un esprit libre et rebelle comme Marc Menant pour nous accompagner dans cette évocation de l'Amistad? C'est un épisode assez passionnant. Je suis heureux que Marc puisse être des nôtres cet après-midi.
Et à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Marc, justement, qui souhaite connaître les origines de la boussole.
Alors c'est un autre Marc, j'imagine. C'est une émission qu'il serait tentant de dédier à tous les Marcs qui nous
c'est
écoutent.
Ça, ce qu'on
et d'ailleurs,
va faire.
Pour ceux qui s'acharnent à m'appeler Marc Ferrand, j'en profite pour rappeler que mon prénom est Franck.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
L'amistad, en espagnol, c'est l'amitié. Et c'est le nom donné à une goélette de 19 mètres et demi, large de 6 mètres, une goélette peinte en vert, en tout cas dans toute sa partie inférieure, puisque la partie supérieure est en noir, les deux séparés par une belle ligne de flottaison toute blanche. La proue est ornée d'un aigle doré avec des étoiles dorées qui sont dessinées sur les deux flancs. C'est un vaisseau solide. Le pont, le fond de la coque sont en cèdre rouge d'Espagne. La coque elle-même étant doublée de cuivre avec des flancs en acajou. Bref, un bien beau bateau qui porte un bien beau nom. Et pourtant, c'est un bateau qui transporte quelques 53 esclaves. Nous sommes en 1839, exactement le 2 juillet 39, et il est 4 heures du matin lorsque l'Amistad se trouve au large des côtes cubaines. Il faut descendre dans la partie inférieure du navire, justement sous le pont, dans une cale où la chaleur est étouffante, où l'odeur est irrespirable. Une cale qui certes transporte comme celle de tous ces navires, des barriques, des tonneaux, des malles, etc. et des ballots de toutes sortes. Mais il y a aussi donc des esclaves africains qui sont là entassés les uns contre les autres et qui ne font pas de bruit du tout en ces toutes petites heures matinales, parce que figurez-vous que un à un, centimètre par centimètre, ils sont en train de se débarrasser de leur fer. Il faut vous dire que l'un d'entre eux a réussi à briser un cadenas et qu'ils sont donc en train de faire glisser la chaîne qui les reliait les uns aux autres, tout simplement. Alors, il y en a quatre qui sont déjà libres, quatre hommes qui commencent à chercher comment on peut sortir de la cale. Ce petit groupe va essayer de conduire la troupe jusqu'à l'écoutille qui mène au pont. Il y a là un garde qui est censé veiller. En fait, il ne veille pas du tout. Il dort, Celestino. C'est un mulâtre d'une vingtaine d'années qui aurait mieux fait de garder un œil ouvert. En fait, il est battu à mort. Ça commence à faire pas mal de bruit, au point de réveiller le capitaine qui s'appelle Ramon Ferrer, qui s'empare immédiatement des armes qui lui tombent sous la main, c'est-à-dire une dague et une massue. Deux marins se jettent déjà dans la mêlée, l'un justement avec une massue, l'autre comme il peut, à main nue. Quant aux propriétaires des esclaves qui sont là à bord, ils s'appellent José Ruiz et Pedro Montes, eh bien eux essaient surtout d'alerter, ils menacent, ils éructent, ils donnent des ordres. Les rebelles, inutile de vous le dire, n'écoutent pas du tout ces ordres. Eux se battent déjà avec ce qu'ils ont pu trouver dans une caisse, et ce sont des munitions dangereuses, puisque ce sont des armes, devrais-je dire, ce sont des machettes. Montes essaie de se défendre, il va tuer d'ailleurs un premier rebelle, il en blesse un autre, seulement à un moment il reçoit un coup de machette qui le blesse grièvement. Deux marins sont déjà en train de s'enfuir à bord d'une pirogue. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Quant au capitaine, le capitaine Ferrer, il est tué, massacré à coups de machette. Il a la tête tranchée. Les propriétaires, quand je dis les propriétaires, oui, c'est bien ainsi qu'il faut les appeler. Ils avaient acheté les esclaves en question. José Ruiz et Pedro Montes, qui donc lui est très blessé, sont capturés. On les met à leur tour au fer dans le pont inférieur. Et en quelques minutes, on peut dire que tout a basculé. Les esclaves ont pris possession du navire. Quant au meneur de la révolte, il s'appelle Joseph Cinque. Qui est-il, ce Cinque. Ben, au départ, c'était un petit riziculteur. Il vivait au Sierra Leone, qui est à l'époque une colonie britannique, en plein cœur de l'Afrique, bien entendu. Beaucoup de trafic d'esclaves au Sierra Leone, hein, bien sûr, étant donné la position du pays. Il avait entre 25 et 30 ans, Joseph, il faut l'imaginer grand, robuste, un soldat aguerri, parce qu'il faut savoir que dans ces villages au Sierra Leone, les hommes sont formés très tôt pour protéger, bien entendu, les villages, donc ce sont de bons guerriers. Il a été capturé comme beaucoup d'autres. Il s'est retrouvé séparé de son père, arraché à sa famille, à sa mère, à sa femme, à ses trois enfants. Il est donc devenu esclave et s'est retrouvé plusieurs mois durant dans ce qu'on appelle une barracoon, c'est-à-dire ces espèces de bâtiments où l'on entreposait les esclaves en partance. En l'occurrence, c'est là qu'il a rencontré d'autres esclaves qui, pour la plupart, étaient comme ça, des paysans et des artisans. Thinke et ses nouveaux camarades ont donc embarqué en avril 1839 à bord d'un navire négrier qui s'appelle le Tethora, et ils ont traversé l'Atlantique dans des conditions absolument immondes. Il faut imaginer 5 à 600 esclaves complètement serrés les uns contre les autres dans des conditions inhumaines. Vous savez que les ponts sont tellement bas qu'ils sont obligés d'être à genoux ou accroupis. On a toujours la tête baissée. Impossible, bien sûr, dans ces espaces très exigus de se tenir debout. Puis alors, vous imaginez la pestilence, la puanteur, toutes les ordures qui viennent peu à peu s'entasser dans ces cales, dans ces demi-ponts. C'est une horreur pour une traversée qui tourne à l'enfer et n'en va pas moins durer 8 semaines. 8 semaines au cours desquelles la vaillance, la force, ce qu'il faut bien appeler le charisme de Thinke, l'a peu à peu imposé comme une sorte de leader. Le Tethora est arrivé au port de la Havane, où il y a déjà pas mal de navires négriers. Il faut savoir que l'esclavage est légal encore à Cuba à l'époque, mais que depuis 1833, l'Angleterre, elle, a aboli la traite, et qu'il y a des navires qui d'ailleurs sont censés faire respecter cette abolition. Comme ses compagnons d'infortune, Thinke a été mis au fer, des fers aux mains, aux pieds. Il a été enchaîné avec un autre esclave au niveau de la taille et du cou. Et il fait partie des 49 hommes achetés par cette espèce de jeune trafiquant qui s'appelle José Ruiz. Le vendredi 28 juin 1839, à la nuit tombée, Thinke et les autres qui ont été habillés à la hâte en marin ont embarqué sur l'Amistad. Donc 53 esclaves, il y a les 49 hommes en question plus 4 enfants. Ils devaient être vendu à des propriétaires de plantations sucrières à 450 km de là, mais vous avez bien compris qu'ils en ont décidé autrement.
Extrait de la bande originale du film Amistad de Steven Spielberg, musique composée par John Williams. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous fait revivre la passionnante histoire de l'Amistad.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous faire revivre cette passionnante page de l'histoire, le destin de ces 53 esclaves qui, en 1939...
Non, 1839,
se sont révoltés et ont retrouvé la liberté sur ce bateau.
Exactement. On est le 3 juillet 1839, exactement, au large de Cuba. Ça fait 5 jours maintenant que le navire est parti de la Havane. Et les esclaves, vous l'avez compris, ont pris le contrôle de l'Amistad, de ce navire dont le nom, et ça n'est pas la moindre des ironies de cette curieuse histoire, signifie l'amitié. Ils se sont débarrassés, bien sûr, de leur chaîne. Il faut l'imaginer, Thinke, avec sa chemise de flanelle rouge, son pantalon de toile blanc. Il porte toujours autour du cou une sorte de petit sac à gris-gris, vous savez, dans lequel on trouve des objets sacrés qui sont destinés à le protéger. Il, bien sûr que d'abord, il mesure le poids de la responsabilité, et puis il a été frappé, il faut le dire, par le fameux Celestino, vous savez, celui qui a été complètement écharpé à côté de l'écoutille, mais il n'en est pas moins très très satisfait. Il sent qu'il va libérer ses camarades, il touche au but d'une certaine manière. Alors, le premier réflexe pour ces hommes désormais libres, ça a été de se nourrir, faut pas l'oublier. Pendant longtemps, ils avaient pour manger une banane plantain, deux pommes de terre et une demi-tasse de thé remplie d'eau par jour, dit-on. Ils ont jusque-là très peu mangé. Or, ce bateau, il est chargé à ras-bord de riz, de pain, de fruits, d'olives, d'haricots, de patates douces, de saucisses, de bœuf séché, que sais-je encore, et des biscuits, des bananes, des volailles. Bref, on pourrait faire bombance. Il faut quand même néanmoins s'organiser. On ne sait pas combien de temps va durer la traversée. Pourquoi parlais-je de traversée ? Parce que leur but, bien sûr, c'est de mettre le cap sur l'Afrique et de rentrer à la maison. C'est ça, bien entendu, l'objectif de Thinke et de ses compagnons. Alors, dans un premier temps, on a gardé les deux propriétaires d'esclaves, là, vous savez, Ruiz et Montes. Montes est assez blessé. On ne sait pas trop quoi en faire. On les a mis au fer, bien entendu. Alors, ils se plaignent, bien entendu. Vous imaginez, les jeunes blancs, là, ils ne sont pas habitués du tout, eux, à être enchaînés. Et Thinke leur hurle dessus. Vous dites que les fers sont assez bons pour les esclaves nègres. S'ils sont assez bons pour les esclaves, ils sont assez bons pour vous. Néanmoins, on va finir par les libérer de leur fer. Au bout de deux jours, on leur donne de l'eau, de la nourriture, etc. On va changer leurs vêtements parce qu'on a besoin d'eux, tout simplement. Et notamment, plus spécifiquement, on a besoin de Montes qui, lui, possède suffisamment de rudiments de navigation pour permettre au navire de ne pas devenir un navire errant. Parce que le problème de tous ces esclaves, c'est qu'ils regardent ce grand navire à la dérive, mais qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, tout ça, bien entendu. Ils ne sont pas des navigateurs, ai-je besoin de vous le préciser. Donc, Thinke a beaucoup à faire, vous savez. Il faut rétablir un semblant d'ordre sur le navire. Il faut gérer la pénurie d'eau aussi, parce qu'il n'y a que 6 barriques et ça n'est pas assez pour faire une traversée aussi importante. Au départ, il devait juste faire un tout petit voyage, évidemment. Du coup, les captifs se mettent à recueillir toute l'eau de pluie. Et notamment, il y a un moyen, c'est d'essorer les voiles, vous savez, pour récupérer de l'eau. Pendant plusieurs jours, on navigue dans une zone qui est relativement petite. On est aux Bahamas, hein. Il se trouve qu'il y a beaucoup de pluie, ça tombe bien. Donc, on essaie de faire, de réapprovisionner les réserves d'eau potable. Il faut faire attention à pas rencontrer évidemment d'autres navires. On est en situation extrêmement irrégulière quand même parce qu'il y a eu une mutinerie à bord. Même si ce sont des esclaves qui se sont libérés en essayant de profiter de l'abolition de l'esclavage, ils n'en sont pas moins des mutins aux yeux des règles maritimes, bien entendu. Donc vous voyez comme c'est complexe. Le plus gros souci, bien sûr, c'est d'arriver à trouver la bonne route pour regagner l'Afrique. Alors c'est Montes qui va devenir en quelque sorte le capitaine. Il a été autrefois capitaine d'un navire marchand, donc il connaît un petit peu comment ça fonctionne. Il est assez malin, Montes. Il sait très bien qu'on ne va pas pouvoir berner pendant la journée les anciens captifs, ceux qui sont maintenant ses propres geôliers, puisque évidemment il suffit de se repérer au soleil pour voir si l'on va vers l'est ou vers l'ouest. Donc pendant la journée, j'allais dire, il fait des ronds dans l'eau. Il fait semblant d'avoir des problèmes avec les vents, etc. On avance pas beaucoup, mais on avance dans la direction de l'Est, comme si on s'avançait vers l'Afrique. Et puis, dès que le soleil est tombé, alors là, lui qui sait naviguer aux instruments et aux étoiles, bien entendu, là, il fait faire demi-tour au navire, et là, on met les gaz, si j'ose ainsi m'exprimer, plein ouest, pour essayer de se rapprocher le plus possible des côtes de ces îles caribéennes, bien entendu, pour rester le plus possible en contact avec le continent américain, et en espérant, bien sûr, tomber sur d'autres navires qui pourraient arraisonner celui-là. Thinke n'est pas longtemps dupe, il comprend bien que c'est compliqué, il comprend bien que Montes n'est pas un allié dans cette affaire, il a des doutes sur ses intentions. Le problème, c'est qu'il y a un problème de langue à bord. Est-ce qu'on parle espagnol, est-ce qu'on parle anglais? Les esclaves, et Thinke le premier, ne parlent que le Mende. Donc, c'est très très difficile de communiquer, bien entendu. Thinké n'en est pas moins excédé. Chaque jour plus excédé. Un jour, voyant qu'on se rapproche vraiment trop de l'ouest, il ordonne que l'ancre soit jetée pour stopper la progression du navire dont il voit bien qu'il va dans la mauvaise direction. Et à ce moment-là, Montes explique qu'on ne peut pas jeter l'ancre, les eaux sont trop profondes. Enfin, Thinké se dit c'est pas possible. Ça, il sait faire. Il n'est pas navigateur, mais il est plongeur. Il a nagé pendant toute son enfance et sa jeunesse. Donc, il va plonger pour aller voir lui-même. Effectivement, il se rend bien compte que les fonds sont extrêmement profonds. Ce qui fait que Montes, dans cette affaire, a sauvé sa peau. Ça va arriver plusieurs fois. À plusieurs reprises, Thinké est au bord de faire tuer Montes, mais à chaque fois, l'autre arrive à s'en sortir in extremis, d'une certaine manière. Ça dure longtemps, ce voyage. Vous pourriez croire que ce sont quelques heures ou quelques jours, pas du tout. 6 semaines de voyage, beaucoup plus qu'il n'en faut pour effectuer la traversée de l'Atlantique, bien entendu. Le découragement est en train de gagner tout le monde. Montes et Ruiz, toujours prisonniers, convaincus que personne ne viendra les sauver, même si leurs conditions se sont beaucoup améliorées, leurs conditions de détention, les deux pensent que eux-mêmes sont perdus. Quant aux insurgés, ils voient bien qu'il n'y a presque plus d'eau, plus aucune terre en vue. Certains commencent à souffrir de la déshydratation, de la dysenterie qui va avec. Et ce que les insurgés ne savent pas, c'est que les autorités cubaines maintenant ont eu connaissance de la mutinerie, parce que je vous ai dit qu'il y avait 2 marins qui étaient partis au tout début, vous vous rappelez, ils sont allés à terre, ils ont prévenu, ce qui veut dire que désormais pour les révoltés de l'Amistad, le temps est compté.
Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous fait revivre les révoltés, les mutinés de l'Amistad. Vous pouvez bien sûr réagir à ce récit sur Twitter avec le hashtag ACDH. Rendez-vous également sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
53 esclaves sur le navire L'Amistad se révoltent pour retrouver leur liberté. Nous sommes en 1839, mais ce voyage n'en finit plus, Franck, ce qui épuise tout le monde et surtout les révoltés.
Évidemment, on manque d'eau d'abord, essentiellement, mais on manque de nourriture, de sommeil, bien entendu. C'est l'époque où, vous savez, quand vous êtes perdu comme ça en pleine mer, où vous perdez vos repères, vous savez plus du tout combien de temps. Ça fait quand même 2 mois que ça dure et que L'Amistad vogue dans ce que certains pense peut-être être l'océan Atlantique. Le milieu de l'Atlantique, en vérité, sont toujours dans les eaux caribéennes. Hein, c'est ça la vérité. Certains rebelles meurent, les survivants sont réduits à cuisiner à l'eau de mer, et on en voit même qui boivent de l'eau de mer. Vous savez que ça, généralement, on ne survit pas longtemps. Ils sont squelettiques. Alors, Montes, donc, qui fait un peu figure de pilote malgré lui, de la goélette, Montes propose à ce moment-là, et c'est ce qu'il aurait peut-être fallu faire depuis longtemps, de voguer vers les États-Unis. On est à 8 ou 10 jours de voyage. Or, les États-Unis sont un pays libre et sont un pays qui a interdit la traite. Alors, je ne dis pas qu'il a interdit l'esclavage, ça c'est une autre histoire, et ce sera celle de la guerre de sécession de 1865. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'est pas question pour les États-Unis de donner leur caution à la traite des esclaves. Thinké ne croit plus à ce que Montes peut proposer. Voilà ce que nous dit Marcus Rediker dans Les Révoltés de l'Amistad, je le cite. Thinké s'avança sur le pont armé d'une dague et d'une épée, et accompagné de ses hommes, il entonna le chant de la mort autour de Montes. Tous chantèrent la mort à l'unisson. Cette danse, ce chant rituel des guerriers, firent trembler tout le navire. Thinké, roulant des yeux exorbités pendant tout le rituel guerrier, s'apprêta à tuer Montes. Son bras fut arrêté par 2 ou 3 de ses camarades, dont à coup sûr Burna, qui était resté le fidèle protecteur des Espagnols. Burna alla jusqu'à promettre aux Espagnols de dormir à côté d'eux pour qu'ils ne soient pas assassinés au milieu de la nuit. On verra d'où vient l'espèce de fidélité de ce Burna, qui à plusieurs reprises, du reste pendant ce qui n'est même pas une traversée, pendant ce qui est une longue errance maritime, aura sauvé la vie des deux captifs blancs. Une semaine après, les rebelles approchent donc de la côte des États-Unis, on n'est pas très loin de Long Island, et voilà qu'un vaisseau, c'est un navire militaire, un navire hydrographique qui s'appelle le Washington, navire américain, reconnaît l'Amistad qui, depuis plusieurs semaines maintenant, a été signalée, et pour cause, dans tous les ports de la région. région. Je cite Maurice Magre. « Des noirs bizarrement costumés avec des robes de femmes courent ça et là sur le pont. D'autres errent sur les vergues et dans les mâtures et font une caricature de manœuvre. Quand le cutter américain se met à la poursuite de ce navire sans pavillon, un noir gigantesque entièrement nu s'élance à l'arrière et entre des éclats de rire, montre le poing au cutter, jette des paroles de défi dans une langue gutturale et incompréhensible et finalement, dans un dessin de plaisante injure, montre la partie postérieure de son corps. Tout un cercle de noirs entame aussitôt une danse entrecoupée de cris de joie, un coup de sifflet retentit et la bande se disperse. Le capitaine du Washington pense qu'il s'agit là d'une sérieuse affaire dont seule l'apparence est bouffonne. Il fait mettre sa chaloupe à la mer et dépêche son second, il est quand même prudent, avec 24 hommes, fusils armés et canons pointés, des pistolets à la ceinture et, aux côtés, ce court sabre d'abordage de la marine américaine qui était pareil au glaive romain du temps de César. Ce récit-là est issu des années 60 et ça se sent, bien entendu, vous l'aurez compris. L'un des hommes du Washington rassure les rebelles. Ils sont en Amérique, dans l'État de New York, où on ne pratique pas l'esclavage. C'est-à-dire que non seulement la traite est abolie, mais il n'y a pas d'esclavage dans l'État de New York. Malgré les armes que ces blancs portent, Thinker a l'air un peu rassuré. Il émet un joyeux sifflement. Il crie en appelant le reste des Africains qui courent sur la plage en hurlant de joie. On danse maintenant, on crie. Il faut dire que l'épopée a quand même duré 4 mois en tout si l'on compte le voyage depuis l'Afrique et 8 semaines d'épopée sur ces côtes américaines. L'Amistad arrive donc dans un lieu qui n'est pas un pays d'esclavage. Un rituel de paix est célébré. Mais évidemment, inutile de vous dire que ce que veulent maintenant ceux qui ont pris possession du navire, c'est l'or de l'Amistad. Soudain, alors qu'ils arrivent au vaisseau, les hommes du Washington sautent sur le pont. Ils obligent les Africains à gagner la cale. Ils libèrent Montes et Ruiz, donc les deux prisonniers. Thinker et ses amis sont complètement sidérés. Ils tentent de fuir, mais ils sont trop faibles, bien entendu. Ils remontent donc à bord du navire, ils regagnent la cale, mais Thinker ne veut pas être capturé de nouveau. Il lance à l'adresse de ceux qui l'ont capturé « Il vaut mieux être tué que de vivre de nombreuses lunes dans le malheur. Je devrais être pendu, je pense, d'un jour à l'autre, mais ça ne m'afflige pas. Je pourrais même mourir heureux si j'avais la certitude qu'en mourant, je libérerais mes frères des chaînes de l'homme blanc. » Alors Thinker tente le tout pour le tout, il va se jeter par-dessus bord et ça va être une espèce de poursuite terrible. Le lieutenant du Washington envoie ses hommes le chercher et Thinker va réussir à leur échapper en nageant constamment sous l'eau. Il peut rester plusieurs minutes sous l'eau avant de reprendre son souffle et ça a lieu un certain nombre de fois. On le voit réapparaître le temps qu'on arrive, hop, il a replongé, etc. Au bout d'une heure de ce manège, il va finir par être capturé. Le lieutenant du Washington, qui craint maintenant une nouvelle insurrection, ordonne à ses hommes de menotter Thinker, de l'isoler de ses camarades. Il est donc de nouveau, il est offert de nouveau, ce pauvre Thinker, enfermé dans la cabine du commandant. Le 27 août 1839, le Washington arrive à New London dans le Connecticut. Il ne faut pas oublier que les anciens captifs sont incarcérés parce qu'ils sont accusés maintenant de piraterie, de meurtre. Ils risquent la peine capitale. Bonjour Marc Menon.
Bonjour Franck.
Nous avons encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet passionnant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et jusqu'à 15h, vous nous parlez, Franck Ferrand, des révoltés de l'Amistad. Vous nous en parlez avec votre invité, Marc Menon, journaliste, écrivain et auteur du petit roman d'Haïti, paru aux éditions du Rocher.
Ce qu'il y a de fascinant dans cette affaire de l'Amistad, c'est qu'elle se trouve au cœur même d'une période de transition entre esclavage et abolition, bien entendu. On est à une époque où tout ça n'est pas encore très fixe et où, bien entendu, ça soulève des questions qui sont d'ordre moral, c'est évident, mais d'ordre juridique également. Alors, avant d'y venir avec Marc Menon et c'est peut-être ce qu'il y a de plus passionnant. Finissons notre histoire. Que deviennent-ils tous ces révoltés avec leur chef en tête, là, le fameux Thinker, Marc ?
Alors, ils vont être placés en prison.
Oui.
Ils vont être placés en prison à New Haven. Et là, on va attendre un jugement. Parce que, comme vous le dites, il y a le risque qu'ils soient condamnés et pour piraterie et pour meurtre.
Mais oui.
Et alors, le juge qui va être chargé...
C'est-à-dire donc là-dessus, on rigole pas du tout dans la marine. Et puis, par ailleurs, il y a eu plusieurs meurtres.
Bien évidemment. Et le juge d'instruction est le juge Johnson, qui lui est un homme que l'on peut considérer comme fortement raciste. Mmh. Il a entre autres voté...
Andrew Judson, il s'appelle.
Voilà. Entre autres, il a voté contre l'éducation des jeunes noirs aux États-Unis, ce qui montre bien qu'il a tendance à croire Emontes et Ruiz. Je crois qu'il faut insister sur ce point, parce que dans un premier temps, on n'a qu'une seule version. Tout à l'heure, vous citez Cinque, les grandes paroles là, face au capitaine. Il ne parle pas un mot. Alors c'est de la reconstruction,
de la réécriture.
Mais évidemment, et c'est un peu le tort que l'on peut porter contre le livre
de Redeker, que très comme il faut, comme on
l'a. Voilà, et il y a comme ça des contradictions. Il va falloir des semaines et des semaines avant que l'on puisse trouver quelqu'un qui soit l'interprète des propos des révoltés.
Alors, il y en a un quand même qui comprenait le Mende à bord, c'est le fameux Burna.
Alors Burna, il semblerait qu'il ait participé au trafic d'esclaves lorsqu'il était en Sierra Leone. Mais peut-être que Cinque, certains l'ont dit aussi.
Oui, Gabro, que Cinque aurait pu être lui-même un trafiquant. C'est-à-dire qu'en fait, là encore, il faut bien comprendre qu'il y a des gradations très subtiles et des attitudes très ambiguës parmi tous ces...
Mais n'oublions pas, Franck, c'est qu'au départ, les tribus entre eux ou les peuples premiers qui se partagent ces territoires, eh bien, ils sont en guerre permanente. Et quand il y a des prisonniers, ils les échangent
et les vendent
comme esclaves. Voilà. Donc, le principe même de l'esclavage est ancré sur cette terre. Reste qu'après, il y a l'exploitation qu'en font certains blancs.
Ça, bien entendu,
là, entre autres, il y a le grand prince de cette région qui s'appelle Pedro Blanco et qui vend les uns et les autres. Et là, il n'y a plus de Cinque qui aurait participé à je ne sais trop quel traficotage, il devient une marchandise comme les autres.
Voilà.
Donc il n'y a pas de suspicion à avoir. Burna, c'est un peu plus complexe. Comme il échange quelques mots avec Montes et Ruiz, on peut imaginer qu'il est obtenu, parce que dans un premier temps...
Un statut particulier.
Voilà, Montes et Ruiz sont persuadés qu'ils vont obtenir, grâce aux petites tricheries qui leur permettent de faire glisser l'Amistad vers les côtes, qu'ils vont obtenir à un moment donné la montée à bord de marins qui viendront les libérer et qu'ils pourront ainsi retrouver leurs conditions et que les esclaves seront condamnés. Mais il leur faut un complice, puisque Cinque se montre très menaçant vis-à-vis de Montes. Et là, on peut penser que les quelques échanges grâce aux baragouins qu'ils possèdent entre eux,
Burna,
permettent à Burna d'obtenir la promesse d'un statut qui lui vaudra d'être libre quand les autres retourneront dans les geôles.
Alors, ce qui est très subtil, c'est que l'esclavage est autorisé à Cuba. Il a été aboli par la Grande-Bretagne à l'époque en 1933. Il avait été aboli bien plus tôt par la France, mais rétabli, on le sait, au temps du consulat par Bonaparte. Et il y a eu cette période où des navires britanniques arraisonnent les navires de la traite pour libérer les esclaves, ce qui paraît assez étonnant. Et il y a aussi un certain nombre de marines continentales, en l'occurrence sud-américaines, qui s'opposent à cette traite qui vient déstabiliser leur pays. C'est qu'on est quand même dans une période très complexe.
Et il y a des accords de bienséance entre les États-Unis et l'Espagne.
Et voilà.
Et c'est là-dessus que se fondent Montes et Ruiz pour faire valoir leurs droits.
Alors,
il faut savoir aussi que rapidement, la grande chance des esclaves, parce qu'ils auraient pu tomber sous la férule des militaires et être, par exemple, dirigés vers la Caroline du Sud, où là, les lois leur étaient beaucoup moins favorables. Voilà, tout à fait. Alors, ce qui se passe en l'occurrence, c'est qu'il y a un bonhomme qui appartient aux ligues abolitionnistes, il y en a quelques-unes, c'est infinitésimal dans cette Amérique. Ce sont des évangélistes, ce sont des grands croyants, des gens qui n'ont qu'une obsession, c'est que le Seigneur Tout-Puissant puisse unir les âmes. Et cet homme, c'est un épicier, s'appelle Dwight James.
Mm-hmm.
Et de temps en temps, il rodaille sur les ports. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir monter à bord de l'Amistad et découvrir ce qui s'est passé. Et là, il va alerter de grands abolitionnistes qui ont énormément d'argent.
Qui vont venir prendre la défense des mutins.
Voilà. Et c'est de là que tout va s'organiser. Donc, on va les placer en prison parce qu'il faut attendre un procès.
Dans l'État de New York, l'esclavage, bien sûr, est aboli. Il ne l'est pas dans tous les États des États-Unis, on l'a compris, même si là encore, une fois pour toutes, la traite est abolie. Hein. Il n'est plus question de traite. Donc, ils vont être jugés à quel endroit précisément
Ils vont être jugés donc dans l'État de New York. Et il se trouve que le Judson va mener...
Le juge
va mener une enquête extrêmement, je dirais, honnête. il va chercher à comprendre bien qu'il y ait cette difficulté d'entrer en contact avec les insurgés.
Tout, voilà.
On n'a pas du tout leur version. Donc Montès, il raconte ce qu'il veut. Ruiz raconte ce qu'il veut. Les conditions de détention à la prison de New Haven, sont extrêmement pénibles. Même si c'est un peu mieux que ce qu'il vivait dans les cales, il n'en reste pas moins que c'est encore la puanteur, c'est la promiscuité et Cinque qui, lui, est à l'isolement. Et lorsqu'ils vont enfin aller vers les tribunaux, dans une terreur inouïe, il est vrai que le mouvement abolitionniste a réussi à créer une sorte d'empathie par rapport à ces insurgés. Ils ont réussi à les présenter comme des héros, comme des hommes qui étaient victimes de la barbarie, de la transcendance blanche en quelque sorte. Et il y a quelques artistes qui sont venus, qui ont fait des caricatures. On a présenté ces personnages comme étant les hommes d'une liberté forcenée.
Oui, on a fait beaucoup de portraits de Cinque notamment,
évidemment.
Qui est devenu une sorte d'idéal ou de symbole.
Mais il va y avoir une pièce de théâtre qui va être un énorme succès. Et devant les juges, donc, qui doivent d'abord se prononcer sur y a-t-il eu mutinerie, y a-t-il eu meurtre, là, l'équation est extrêmement difficile à résoudre et il n'en reste pas moins, contre toute attente, eh bien que le juge Johnson va estimer qu'effectivement, ces gens-là étaient dans leur bon droit, car ils constate, entre autres, que l'impossibilité de s'exprimer montre bien que ces gens, contrairement à ce qu'affirmaient Ruiz et Montes, n'étaient pas des esclaves qui vivaient à la Havane, mais c'était de la chair fraîche qui arrivait d'Afrique. Donc une chair qui appartenait et qui était condamnable par la loi. D'où la possibilité de libérer ces gens qui avaient montré, c'est vrai, de la férocité, mais qui étaient en position
légitime
de
défense, voilà.
Légitime
mais
défense.
C'est quand même assez remarquable que ce juge Andrew Judson, réputé juge raciste, etc., finalement, ait l'ouverture d'esprit et la droiture, en quelque sorte, de reconnaître la situation.
Bien évidemment, mais alors il y a quand même toute cette pression des abolitionnistes qui fait que il est obligé de tenir compte de certains éléments. On a aussi cette difficulté, donc, c'est essentiel, parce que pendant des semaines, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé véritablement. Alors, il y a des professeurs qui viennent, qui rencontrent ces esclaves, qui essaient de déchiffrer en quelque sorte leur langage, de créer un pont linguistique entre eux et la langue anglaise, afin de pouvoir connaître la situation selon leur version. Et on a un professeur qui commence à compter à la Montes, enfin, selon les Africains. Il y a également quelques mots qui permettent de voir que les versions qui étaient proposées jusque-là étaient des versions mensongères. Et puis, un jour, il va dans le port et il parle à voix haute grâce aux quelques éléments qu'il a pu quérir pour essayer de voir s'il y a une résonance auprès de marins qui se trouveraient dans l'un des bateaux. Et c'est là que la grande chance va se présenter pour les insurgés de l'Amistad.
Et ça, on voit ça dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Après-midi sur Europe 1, nous sommes en 1839. Franck Ferrand, vous recevez Marc Menant, journaliste et écrivain, pour revenir sur cette passionnante page de l'histoire, les révoltés de l'Amistad. Alors après la mutinerie, la révolte, le jugement, on s'intéresse maintenant au destin de ces esclaves
et
qui ont retrouvé la liberté.
Ils sont en plein jugement. Le jugement est ouvert au départ en septembre-octobre 1839. Ce qui a marqué toute l'affaire de l'Amistad tant qu'ils étaient à bord, c'était un problème linguistique et culturel, on l'a bien compris, puisque ces gens ne pouvaient pas communiquer. Ils ne pouvaient communiquer ni par la langue, puisque les esclaves parlaient le mende, hein, et ni par, j'ai envie de dire, les habitudes, puisque vraiment, ce sont des natures très différentes. Or, ce problème linguistique va se résoudre, Marc, c'est ce que vous étiez en train de nous dire.
Imaginez ce professeur qui s'est intéressé à leur cas, qui est là, sur les quais, en train d'égosiller les quelques mots qu'il a presque inventés, forgés,
à partir
de l'échange avec les insurgés. Et soudain, il y a deux bougres qui se manifestent. Ils sont surpris d'entendre ces chiffres ameutés comme ça. Et là, on découvre qu'ils parlent eux aussi cette langue.
Mais qu'ils peuvent donc servir d'interprète.
Qu'ils vont pouvoir servir d'interprète. Il y en a un qui s'appelle Charles Pratt, mais celui qui parle véritablement comme Cinque s'appelle James Coway. Il va jouer le rôle essentiel qui va permettre enfin d'être en contact, d'avoir tous les éléments nécessaires pour décrypter ce grand drame. C'est ce qui va conduire Judson ensuite à prononcer. Donc,
le juge là, qui jusqu'alors n'avait entendu somme toute que la version de Ruiz et Montes, ce juge qui en quelque sorte avait entendu la version des vainqueurs, se met à disposer de la version de ceux qui ont subi la déportation.
Il avait un fort doute déjà, puisqu'il n'arrivait pas admettre qu'effectivement des esclaves qui auraient vécu suffisamment longtemps à la Havane ou à Cuba ignorent complètement l'espagnol. Pour que ces gens soient dans cette pratique linguistique, c'est qu'ils étaient là de façon récente. Alors donc, ça va tout modifier. Mais reste que le premier verdict est favorable. Mais aussitôt, il y a appel qui est porté.
C'est-à-dire que le procureur, alors on est donc dans l'État de New York, hein, le procureur va faire appel de la décision du juge Judson, qui est considérée comme trop clémente envers les mutins. Ils ont été considérés comme en état de légitime défense, ils sont acquittés. Ça ne plaît pas au procureur qui demande donc qu'on rejuge, en fait.
Il y a les autorités espagnoles également qui demandent que l'on rejuge. Le capitaine du Washington qui voudrait toucher la prime. Mendes qui voudrait toucher la prime. Ruiz qui voudrait toucher la prime. Et redevenir les propriétaires.
Montes.
Et donc, on se retrouve là avec l'attente, néanmoins pour les prisonniers, des conditions de détention qui se on les remet en prison, mais dans la journée, ils ont droit d'aller dans un square. Et là, ça devient une sorte de grand cirque ambulant. Les gens payent pour venir les voir. Et eux, ils peuvent enfin s'ébattre. Et ce sont des gymnastes. Ils font des pirouettes comme on n'en avait jamais vu, même chez Barnum.
Barnum n'existe pas encore.
Mais je veux dire par là.
Bien sûr.
C'est la logique même d'un spectacle grandiose d'hommes qui sont dans l'expression, je dirais, du muscle. Et ça fascine les uns et les autres. Et on paye pour les voir. Ça leur permet aussi d'avoir un ordi d'air qui est largement amélioré. Ils ont de quoi se nourrir. Cinque est également maintenant avec eux dans la prison. Et on attend le deuxième jugement.
Quelle est l'attitude de la population justement à leur égard? C'est une attitude de curiosité bienveillante ou au contraire de méfiance?
Ceux qui viennent, c'est plutôt de la bienveillance. Oui. Mais je vous ai dit, c'est infinitésimal. Même lorsqu'on se... Les deux premiers jours, vous avez 2000 personnes qui viennent les voir. 2000 personnes qui payent l'équivalent de, je ne sais pas moi, 1 euro d'aujourd'hui pour simplement apercevoir ces gens qui se sont révoltés. Et alors, ce qui est complètement inouï, c'est que pour essayer maintenant de les faire progresser dans la langue anglaise, pour être beaucoup plus à même d'avoir les éléments de leur aventure, on prend la Bible comme référence. Et on voudrait également en faire des bons chrétiens. D'ailleurs, les abolitionnistes ne disent pas on va leur apprendre l'américain ou l'anglais.
On va leur apprendre le chrétien.
Et on veut qu'ils soient bons chrétiens. Il faut qu'ils en réfèrent à Dieu. Il faut que le dimanche, ils soient dans la prière. C'est une obsession
faire
des chrétiens.
Pour ces jeunes États-Unis, on est à l'époque où Tocqueville est allé faire son voyage, on est dans ces jeunes États-Unis, c'est une affaire politique majeure et c'est la Cour suprême qui va devoir trancher.
Complètement. Donc, et cette Cour suprême
1841.
Va finir par effectivement reconnaître les droits de ces insurgés qui ne sont plus des insurgés, qui sont simplement des hommes qui voulaient faire valoir leur liberté, qui était en légitime défense. Alors on dit, ben voilà, ils sont libres. Mais ça leur donne quoi d'être libres?
Les pauvres.
Ça leur donne rien. Eux, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de retourner en Afrique. Et là, si la Cour suprême se montre magnanime, elle n'a pas du tout la même générosité quand il s'agit des finances. À eux de se débrouiller pour retourner en Afrique.
Alors comment est-ce que ça va se passer?
Alors c'est là que l'on va monter des tournées de conférences. Et dans les églises, entre autres, où on va de leur demander de raconter leur épopée, et surtout aux trois qui pratiquent à peu près correctement la langue chrétienne. Et les questions qui leur sont posées tournent plus d'ailleurs sur leurs nouvelles pratiques religieuses que sur ce qu'ils ont véritablement vécu en tant que tels. Et petit à petit, on va amasser les fonds nécessaires pour armer un navire qui va les reconduire sur leur territoire.
Ça c'est une histoire vraisemblable. C'est l'histoire de leur retour. Là. Est-ce que ça s'est bien passé?
Et
ce
alors
retour
on vend des petites médailles aussi. Oui. On a également reconstitué tel le musée Grévin de véritables statues de cire que l'on expose. Et là encore, on fait payer. C'est-à-dire qu'il y a l'endroit où ils se présentent. Et puis les autres lieux, ce sont les statues de cire qui sont proposées à l'adoration ou à l'adulation du public qui paye pour les regarder, pour les voir. Et donc, il y a la somme nécessaire pour enfin retourner dans leur
combien
pays.
Combien sont retournés? Quelle est la proportion? Il y en a eu beaucoup.
Il y en a une trentaine qui sont retournées. Les trois petites filles qui avaient été prises, je dirais, comme employé domestique par le patron de la prison de New Haven, l'affreux Pendleton, obtiennent, elles, d'être confiées à un abolitionniste qui va leur donner une belle éducation. Et les autres bien, vont retourner au pays. Cinque va très rapidement se soustraire aux autorités, parce que les uns et les autres, là encore, insistons là-dessus, je pense qu'il n'y aurait pas eu cette détermination des Blancs s'il n'y avait pas derrière cette volonté de conversion. Et lorsqu'ils vont là-bas, c'est pour porter aussi la parole chrétienne,
oui,
de faire en sorte...
Ben
voilà. Et dans le même temps, les Britanniques ont monté toute une opération pour éradiquer l'esclavage qui était mené par Pedro Blanco dans toute cette zone.
Et ça a été un élément très important. Ça a été de l'eau au moulin des abolitionnistes, disons-le. Ça a joué un rôle essentiel, même si on en a moins conscience en France, puisque nous sommes restés, nous, un peu à l'écart de cette affaire. Là où nous ne sommes pas restés à l'écart, c'est en Haïti.
Il faut,
puisque vous êtes cet historien d'Haïti, Marc Menant, et je signale d'ailleurs que votre petit roman d'Haïti a été traduit, mais a été édité en Haïti, sous le titre de Haïti, le peuple de la liberté. C'est le premier peuple noir à se libérer, en fait, faut le dire.
Mais il faut savoir que dès 1750, il y a Mackendal qui est le premier à mener la révolte. Et pendant 20 ans, il va terroriser les colons. Il va leur faire subir la nuit, en particulier selon les forces des esprits, puisque il y a ça aussi, faut pas l'oublier, même dans
importé
cette lutte
d'Afrique,
importé d'Afrique, c'est-à-dire que ils ont eu le courage d'affronter les Blancs qui étaient surarmés, parce que pour eux il y a les esprits qui les protègent, il y a les esprits qui rôdaillent autour d'eux. Tout à l'heure vous avez évoqué le petit sac que Cinque a autour du cou. Ils ont tout ça. À certains moments sur le bateau, ils se réunissent, ils jettent à la mer en offrande pour les esprits les éléments pour que ces esprits voient bien qu'on en révère à eux, qu'on demande leur aide. Et ça, c'est quelque chose qui va être primordial dans la lutte. Et en Haïti, s'il n'y avait pas eu les esprits, jamais ces peuples n'auraient eu le courage de se jeter contre les armées napoléoniennes. Quand ils se ruaient contre les canons, ils étaient là complètement nus et ils se ruaient. C'était la véritable hécatombe, mais ils disaient ce n'est pas grave parce que de toute façon, vous renaissez chez les ancêtres en esprit, et par conséquent, c'est votre liberté, rien ne doit vous arrêter. Et je pense que ce sont ces éléments-là qu'il faut avoir en tête pour essayer de distinguer, bien, je dirais, notre histoire revue à la façon blanche, et puis ce qui a été l'authenticité de ces peuples.
Le petit roman d'Haïti de Marc Menant était aux éditions du Rocher, et puis donc... on a bien senti que vous n'étiez pas très enthousiaste, mais cet ouvrage de Marcus Rediker, sa traduction en tout cas, Les Révoltés de l'Amistad, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Marc Menant.
Et dans un instant, le voyage continue au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand qui vous révélera les origines de la boussole.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, c'est Marc, un fidèle auditeur, qui vous pose cette question sur europe1.fr. Franck, il voudrait connaître les origines de la boussole.
Ça aurait été bien utile à certains des passagers de l'Amistad, cette boussole, s'ils avaient su s'en servir. Alors, il y a un malin qui avait repéré déjà les propriétés de certaines pierres capables d'attirer le fer. On est au 7e siècle avant notre ère et c'était Thalès de Milet. Mais pour tout vous dire, ce sont les Chinois, comme souvent, qui au 1er siècle, avant notre ère, vont découvrir qu'une tige aimantée peut s'orienter naturellement dans l'axe nord-sud. Ça devient un outil extraordinaire. C'est le début de ce qu'on va appeler la cuillère montre-sud, n'est-ce pas? Un objet qui ressemble à une sorte de cadran solaire. L'aiguille a la forme d'une cuillère posée sur un socle en métal et elle a la particularité d'indiquer le sud, à la différence de notre boussole, hein, je vous ferai remarquer, qui elle indique le nord. L'outil se révèle particulièrement utile lors des déplacements de jour, certes, mais surtout de nuit. D'une façon générale, c'est très pratique pour les grands voyageurs. L'instrument va être perfectionné avec l'apparition d'un système utilisant une aiguille suspendue à un fil et plongée dans un vase. Et étonnamment, il semblerait qu'elle n'ait été utilisée pour se repérer en mer qu'à partir du 12e siècle. Ça va être la naissance du compas magnétique. Je ne vais pas entrer dans tous ces raffinements de l'invention. Tout de même, c'est à la fin de ce même 12e siècle que la boussole apparaît sur le vieux continent, par l'intermédiaire, cette fois, des Arabes.